Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, avant Culture Sport, on va faire le traditionnel désormais flash résultat du week-end avec donc au programme du football, du rugby, du handball, puisque beaucoup de sports co ont repris, et on terminera par un dernier mot, judo. On va commencer bien sûr par le football avec la CFC qui se déplaçait du côté de Moulins pour affronter le Moulins Isère-Foot, un match important pour les hommes de David Gigel qui malheureusement n'avait toujours pas gagné avant cette quatrième journée. En face, c'est Paris. Moulins avait fait trois défaites en trois journées, donc c'était un match entre deux équipes qui cherchaient à prendre des points. Eh bien, il y a eu match nul, un partout, un score qui n'arrange personne au final, puisque Moulins ne compte qu'un point au classement, tandis que la CFC n'en compte que 3 en 4 matchs. Un match où les Angoumoisins ont rapidement pris l'avantage au bout de 10 minutes de jeu grâce à un penalty de Kevin Cardinali. Et en deuxième mi-temps, c'est Moulins Isère-Foot qui est revenu grâce à une belle tête de Bertrand Fourier, l'ancien attaquant du Puy, qui permet aux joueurs de l'Allier de revenir et de faire un partout. Globalement, un match nul plutôt équilibré. Angoulême a eu la première mi-temps pour lui et a eu quelques occasions aussi en fin de match. Mais Moulins a fait une belle deuxième mi-temps. Donc voilà, le score un partout n'est pas immérité. Je vais donner rapidement les autres résultats de la division. Donc avec Bergerac et Romorantin qui ont fait 1 partout. Saumur a battu Andrézieux 2-0. Trélissac et Bourges ont fait 0-0. Chamalières et Lorient ont fait 1 partout. Gaulle FC a battu Nantes 3-0. Angers s'est imposé à Vierzon 2-1. Les Herbiers et le Stade Bordelais ont fait un partout. Et enfin, du coup, Moulins et Angoulême ont fait également un partout. Donc, au classement premier, Gaulle FC avec 10 points à égalité avec Saumur. Troisième, Angers, 9 points. Quatrième, Andrézieux, 7 points. Et cinquième, Vierzon, 7 points. Vierzon, d'ailleurs, sera le prochain adversaire de la CFC puisque les Angoumoisins recevront Vierzon samedi à 18h au Stade Lebon. Un match contre un promu. On verra ce que ça donne. En tout cas, Vierzon alterne un peu le meilleur et le chaud et le froid, puisqu'ils sont allés gagner à l'extérieur et ils ont perdu chez eux, donc à voir un peu quel visage de Vierzon affrontera la CFC. En tout cas, Angoulême compte 3 points au bout de 4 journées, donc la première victoire est toujours en recherche. Il y avait également de la Coupe de France, on jouait le 3ème tour avec les 17 Charentais encore en lice. Il y a eu des dégâts, il y a eu des catons malheureusement, puisque seulement 6 Charentais ont rallié le tour suivant, avec notamment les qualifications de Cognac dans le derby qui les opposait à Bel Air sur le synthétique d'Angoulême, les qualifications également de Mornac qui a été chercher une belle victoire à l'extérieur, et puis hier dimanche il y a eu des victoires logiques, les qualifications au pénalty de Merpin et de l'Alliance 3B qui s'est imposée au pénalty aux dépens de Leroy, également la qualification de Sireuil qui donc rejoignent la CFC au prochain tour. Donc la Charente comptera 7 équipes au tirage au sort donc cette semaine, avec un troisième tour qui je pense est programmé dans 15 jours. Donc on suivra les aventures des clubs charentais en Coupe de France. Il y avait aussi la reprise de la D1 féminine avec la Gisrio, avec son nouvel entraîneur Stéphanie Guigaud. Un déplacement au Paris Saint-Germain, un gros défi en perspective pour Soyo qui a perdu 2-0 avec les honneurs. Paris avait rapidement ouvert le score et Soyo a plutôt bien résisté. Dans le même temps, Paris FC a battu Rodez 2-0, Fleury a battu Guingamp 3-0, Bordeaux a battu Le Havre 4-2, Montpellier a battu Dijon 3-0 et enfin Lyon n'a fait qu'une bouchée du stade de Reims 5-1. Aucun match nul d'ailleurs dans cette première journée. Donc avec bien sûr Lyon qui prend la tête du championnat avec Fleury, Montpellier, Bordeaux et Paris. Et le Paris FC également. Soyo est 9e, donc avant un deuxième déplacement du côté de Lyon. Donc encore un match compliqué où il va falloir limiter la casse pour l'ASJ. On va parler de rugby rapidement avec donc pour rappel la défaite malheureusement du SA15 contre Aurillac 19-15. On en a parlé précédemment avec Fred dans le SA15 Mag Attitude. Du côté de la Nationale, Cognac s'est incliné malheureusement à Tarbes 35-19. Et du côté de la Fédérale 1, pour ses premiers pas à ce niveau, l'UBJ, l'Union Barbezieux-Jonzac, a perdu 24-20 du côté du Gujan-Mestras. Enfin, on va rapidement parler de handball avec la première journée des championnats nationaux. On va commencer par la N2 masculine avec l'ETEC, l'entente territoire Charente Handball, qui recevait Irisar Tarak, j'essaie de le prononcer au mieux, avec une victoire 30-27. Donc ça démarre bien pour l'ETEC. Et l'ACH démarre bien également aussi, puisque l'ACH a battu Mérignac 38-28, donc un premier match largement dominé par les Angoumoisines qui l'emportent de 10 buts. Donc c'est plutôt positif. Et on va terminer ce flash sport par un petit mot de judo avec Julie Pierret, hein, qui était du côté de l'Italie pour une European Cup du côté de Riccione. Et donc Julie Pierret termine 5e au pied du podium, mais c'est plutôt une bonne reprise pour Julie, hein, qui reprenait la compétition et qui prépare les championnats de France qui auront lieu début novembre du côté de Toulon. Elle bat en premier la Kazakh Yann Geldina, ensuite elle bat l'Espagnol Pérez Gomez pour se retrouver en demi-finale contre Fanny Posvit, donc une autre tricolore. Donc malheureusement elle s'incline au Golden Score, un match combat hyper serré où ça, la décision a longtemps mis à se dessiner. Et malheureusement pour la place de 3 pour la médaille de bronze, Julie Pierret s'incline contre l'Allemande Zenker. Elle termine 5e, une compétition qui est remportée justement par Fanny Posvit qui bat en finale la Slovène Lobnik. On suivra d'ailleurs les aventures de Julie Pierret, puisque la Slovénie devrait être le prochain pays où elle combattra, a priori, selon les informations de Guillaume Avril. Donc on suivra ses prochaines compétitions. Le flashport est fini. On se retrouve tout de suite avec Didier et Dédé, avec en invité Jérôme Di Tommaso pour parler rugby et puis pour parler de plein de sujets hyper importants dans la vie, tout simplement. Une belle rencontre, comme d'habitude, avec Jérôme Di Tommaso. On écoute ça tout de suite.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi, 19h-20h30, nous accueillons pour cette rentrée un historique de l'émission, c'est Jérôme Tommaso. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Mille merci d'avoir accepté notre émission. J'accueille Dédé. C'est un vrai plaisir de te retrouver parmi nous, Dédé.
C'est réciproque. Hein. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur encouragement dans ces moments très difficiles que j'ai pu donc avoir. Voilà, donc je vous retrouve tous et je suis évidemment très heureux de retrouver l'équipe.
Parfait. Christian, bonsoir.
Bonjour, salut Didier.
Le Deus Ex Machina de l'émission, donc l'encyclopédie vivante du sport en Charente. Bienvenue Christian, bienvenue sur Attitude, bienvenue dans Culture Sport.
Bientôt en représentation à l'espace Cara avec Steph.
Pas de problème, avec une démonstration de Béhour peut-être.
Peut-être, si on arrive à enfiler l'armure, pourquoi pas.
D'accord, ok. Jérôme, merci d'avoir accepté notre émission. Donc, ce que je te suggère, c'est dans un premier temps, on va faire un bilan de ton parcours professionnel. Donc, depuis quasiment un an, ou depuis en tout cas 6 mois, on a fait l'émission ensemble. Que s'est-il passé au niveau du rugby, si toutefois il s'est passé quelque chose? Et que s'est-il passé au niveau du théâtre?
Eh ben, d'abord, au niveau du sportif, pour moi, il s'est pas passé grand-chose, puisque je fais plus rien. Même si je suis les résultats de presque tout le monde. Voilà, après j'ai passé la main en tant que joueur et bien longtemps en tant qu'entraîneur aussi. Et au niveau du théâtre, on a bien travaillé jusqu'à l'été dernier, puis on s'est reposé pendant un an. Là, ça va repartir. Plein de projets sur le théâtre et puis sur le rugby. Bon, nos sports, pour l'instant, c'est toujours en stand-by et je regarde agir les autres.
T'as pas de manque particulier par rapport au fait d'être entraîneur de rugby ou quelqu'un d'important dans un club?
Si, on a toujours un peu des manques de quelque chose, mais écoute, aujourd'hui, je vis très bien ma retraite sportive et tout va bien.
Oui, et puis en plus, c'est un métier qui te prend énormément de temps, donc c'est un vrai boulot à plein temps.
Ouais, ouais. Bah, disons, mon changement de sport, ça coïncidait avec mon travail et puis la rencontre d'une chérie qui m'a fait tout arrêter, quoi.
Alors, c'est bien parce que ton travail, il est dans la lignée de ce que tu fais, c'est d'être en contact avec les gens et d'avoir du dialogue.
Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est un lien social aussi, le travail,
oui.
Tu sais.
Oui,
moi,
oui.
Je l'ai toujours dit. Le mien, peut-être un peu plus que les autres, parce que on est en contact direct avec les gens, que ce soit le matin au café ou le midi pendant que les gens y mangent. Voilà, c'est un vrai lien social. Pour eux, oui, et puis pour moi hein, aussi, là.
Et puis tu gardes aussi un lien avec le rugby parce que tous tes anciens joueurs ou tous tes collègues entraîneurs ou tous tes amis du ballon ovale viennent te rendre visite au hall. Donc au final, vous refaites toujours la troisième mi-temps autour d'un café.
Ouais, on refait toujours le monde, tu sais bien comment c'est. On refait le monde, on invente le prochain et puis...
Et puis on s'arrête pour 2 minutes à la base et on reste 1h30 à parler.
Exactement.
D'ailleurs, dit Tom, j'en profite pour avoir la parole. Il y a eu une bonne nouvelle pour toi cette année quand même, puisque avec la remontée du SA15 en Pro D2, tu vas regagner ton petit Angoulême-Grenoble.
Ouais, je vais regagner mon petit Angoulême-Grenoble. Alors, je vois que Grenoble a bien commencé. Le SA a très bien commencé aussi. Même s'ils ont perdu la Nevers, je pense que c'est d'avoir gagné Vannes déjà, c'est très très bien. Alors après un Brouin Nevers, même si ils auraient peut-être pu faire mieux, je crois qu'il y a d'autres joueurs qui ont dit qu'ils auraient pu gagner. Enfin, c'est très bien, ils ont déjà 5 points de match, c'est très bien.
Un retour en arrière, si tu le veux bien, Jérôme. Comment t'as vécu toi la saison du SA15 en national l'année dernière?
Alors j'ai vécu, tu sais, je me rappelle du début de saison dernière. Je me rappelle d'un des premiers matchs où ils avaient perdu à la maison contre Dijon. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à Tours pour le Mondial du fromage. Ah. Et j'avais suivi ça par Internet, hein, comme d'habitude. Et je me rappelle, le soir du match, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Et ça me mettait un peu hors de moi. Bon, je suis pas très réseaux sociaux. Je donne pas mon avis, mais ça m'agaçait de voir que dès le début du championnat, on les taillait déjà. Et j'avais envie de dire, mais laissez-les travailler, laissez-les tranquilles. Voilà, ça m'agace. Dès qu'ils sont critiqués, ça m'agace. Et j'ai envie de dire, laissez-les travailler. Et puis, on s'aperçoit qu'en fin d'année, ils montent en plus. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes qui critiquent, qu'ils les taillent, qu'ils les mettent en pièces au moindre faux pas. Et c'est les mêmes qui, lorsqu'ils vont gagner, font les mielleux, font les gentils, font les... Voilà, tout ça. Donc, à un moment, ça m'agace. Alors même si je les soutiens pas directement, parce que ce jour-là j'avais pas mis de messages sur les réseaux sociaux, j'étais bien content qu'ils montent et qu'ils ferment et qu'ils fassent un peu taire un peu tous ces détracteurs.
Oui, d'autant que ça s'est même mal passé pendant les trois premières journées. Au bout des trois premières journées, ils avaient toujours pas de victoire et qu'à ce moment-là, les plus optimistes d'entre nous étaient sceptiques.
Enfin. Ouais, mais en réalité, tu sais, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est toujours ceux qui ont jamais joué qui comprennent pas ce qui se passe.
C'est clair.
Qui comprennent pas pourquoi ils perdent. Mais à un moment, faut laisser travailler les gars. Et tant qu'on vit pas avec eux, il faut arrêter de tout critiquer, quoi.
D'autant que le reste du parcours a quand même été, ô combien valable sur bien des plans. Ils sont allés remporter des succès à l'extérieur, notamment à Valence Romand et à Chambéry, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était quand même des victoires de référence face à des
clubs. Ça a été une saison un peu... Il y a eu des hauts et des bas, et ça a déplu à beaucoup de gens, mais à un moment, je pense qu'il faut laisser travailler les gens. Et puis je le redis, hein, tant qu'on vit pas avec eux, tant qu'on fait pas les entraînements avec eux, tant qu'on comprend pas ce qui se passe, il faut arrêter de tout critiquer, quoi.
En 30 secondes, intervenir sur notamment ce que vient de dire Di Tommaso, c'est vrai que je crois que c'est dans tous les sports. Mais tout le monde ne peut pas être premier, malheureusement.
Tu sais bien, Dédé.
C'est trop beau.
Dédé, tu sais bien que quand t'as une équipe qui perd, t'as 2000 entraîneurs qui se révèlent du jour au lendemain.
Bien sûr.
C'est comme ça.
Bien sûr. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est un petit peu partout. Malheureusement, moi, je voudrais revenir sur aussi la saison, puisque t'as quand même le regard sur le rugby, c'est ta passion. Ça fait beaucoup au niveau du département, en tant que coach, notamment à la Couronne, également à Barbezieux-Jonzac, à Angoulême, et j'oublie pas Saint-Junien. Et Jarnac, t'es parti, je crois, du terrain en 2018, après une belle saison, enfin en demi-teinte, on va dire, avec la Couronne. Et depuis ce moment-là, j'avais lu dans la presse que tu allais consacrer ta vie à autre chose. C'était quoi, autre chose?
Bah, c'est autre chose. Bon, après, si tu veux, il y a toujours un manque quand on quitte les terrains, je crois que ça faisait, alors que là, ça devait faire 50 ans que je faisais du rugby, que j'étais sur les terrains. Alors que c'était pas que du rugby, parce que tout gamin, on fait du sport. Tu sais, et donc, c'est une habitude d'être trois fois par semaine aux entraînements, voire plus, d'être tous les week-ends sur les terrains. Donc, t'as une manque. Et tu sais, je le dis souvent, aujourd'hui, j'ai presque une vraie vie de famille. Je dis presque parce que j'ai pas d'enfant. Mais j'ai une vie de famille, je rentre le soir, il y a quelqu'un qui m'attend à la maison. Donc il y a moins ce manque, tu sais, peut-être que si demain j'étais tout seul, je retournerais le soir à l'entraînement. Tu sais, le rugby, le sport, ça aide à passer du temps, ça aide à tellement de choses. T'es pas seul, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, je suis plus seul dans ma vie, c'est pour ça que j'ai moins besoin d'aller au sport. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vie j'ai une vie sociale le soir, tous les soirs quand je rentre, et je suis moins en manque de tout le sport.
Fabrice Landreau, tu disais lors de la dernière émission auquel tu as participé, qu'avec les relations de Fabrice Landreau, qui a aussi souffert, hein, comme le 115 en national, et il se sauve dans la dernière journée contre Nice, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Contre Chambéry.
Ou Chambéry, excuse-moi.
Contre Chambéry, il gagne à la dernière minute.
C'est ça, oui.
Il gagne à la dernière minute. J'ai envie de dire non, parce que quand il gagne à la dernière minute, il gagne le match, mais ils sont toujours bien pas sûr maintenus, parce que parallèlement à ça, il y avait un match il y avait Dax au Benas.
Oui, c'est ça, oui.
Et au Benas, était en train de gagner à Dax. Si tu veux, à la fin du match, même en ayant gagné Chambéry, ils étaient relégués. Et dans les arrêts de jeu, Dax a marqué contre Benas. Et donc, 5 minutes après le coup de sifflet final de Cognac, ils apprennent qu'ils se maintiennent.
Oui, il a fallu des circonstances favorables pour que Cognac se maintienne.
Ouais,
oui, après, ils sont allés le chercher quand même.
Ouais, il fallait le chercher, il fallait qu'il soit courageux toute l'année, il a fallu qu'il baille taille jusqu'au dernier moment. Et voilà.
Surtout qu'en plus, il me semble, ils perdent contre Benas, hein, à 2-3 matchs de la fin. Et derrière, il me semble qu'ils ont un déplacement, parce qu'on avait reçu Fabrice Landreau avec Didier, et donc on avait pu discuter avec lui de la fin de saison. Il me semble qu'ils doivent aller à Dax et ils reçoivent Chambéry, comme tu le disais. Et il faut absolument remporter ces deux matchs, et c'est ce qu'ils ont fait.
Et ils ont gagné. Alors, ils ont perdu chez eux contre Benas. Ils sont allés gagner à Dax, qui a été un peu improbable vu les résultats qu'ils avaient auparavant. Donc, ils ont su gagner à Dax et battre Chambéry sur le dernier match.
Avant que Dédé pose sa question, j'en ai une pour toi, Didier. Comment justement on fait pour remobiliser les joueurs? Parce qu'en plus, Cognac, ils ont pris plusieurs claques cette saison. Il y a eu cette défaite contre Aubenas à domicile. Je me rappelle aussi qu'ils avaient perdu contre Tarbes. Et c'est vrai que c'était le match qui pouvait vraiment leur permettre de sortir vraiment la tête de l'eau. Comment on fait justement pour après une défaite finalement face à un concurrent direct, comment on fait pour remobiliser ces joueurs parce qu'il reste encore des matchs derrière?
C'est compliqué, il faut arriver à faire croire aux joueurs que tout reste possible. C'est comme quand tu vas chercher une phase finale ou un titre ou un maintien, c'est pareil, il faut arriver à faire croire aux joueurs, même si à un moment c'est compliqué, qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver. Après, Fabrice, il a 2-3 ficelles qui font qu'il arrive à transcender les mecs aussi, quoi.
Pendant qu'on interroge sur les ambitions du CS cette année, je suppose que dans un premier temps, il sera question du maintien et que plus si affinité.
Ouais, bien sûr. Alors, tu sais, j'ai souvent tendance à dire que donne-moi ton budget, je te dirai c'est clair. Et ton classement.
Ouais. C'est clair.
Même si c'est pas toujours le cas, mais à 90% de fois, c'est le cas. Alors voilà, on a juste à regarder le budget, on sait que ça sera une saison compliquée. Après, j'ai pas envie de dire qu'ils ont bien démarré, parce qu'ils ont perdu leur premier match contre Valence, ils prennent quand même un point de possible de bonus.
Après avoir été mené 22-5, ce qui est quand même...
Ouais, voilà, ils partent jouer à Tarbes, ça sera pas facile, parce que tu en plus Tarbes vient de faire un bon résultat à Chambéry, qui est une bonne équipe, Tarbes a accroché Chambéry, mais toute la saison va être compliquée, tous les matchs vont être tendus. Ça sera tout le temps dur. Maintenant, j'ose espérer que ça se passera un petit peu mieux que la saison dernière. On n'en est pas encore convaincu.
En ce qui concerne donc les relations, tu les as toujours avec Fabrice Landreau. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, t'as été aussi le coach de Barbezieux-Jonzac et qui ont finalement monté cette année.
Alors, d'abord, la première question avec Fabrice, ouais, bien sûr. On s'est pas encore fâché. C'est pas prévu.
C'est pas demain la veille.
Non, c'est pas prévu, tu sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais bon, c'est pas d'actualité. Ouais. Donc, on est toujours très proches. Après, bien sûr que j'étais très content pour l'UBJ, qui remonte en Fédéral 1, ça sera pas simple. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement, qui s'en sortent bien. Le club a été très structuré. Tu sais, par exemple, j'ai vu cette semaine un des joueurs qui vient de recruter, qui s'appelle Aurélien Cormenier, que j'ai bien connu à Saint-Julien, qui avait signé à Barbezieux, qui est parti jouer à Montron et qui est revenu à Barbezieux cette année. Et toi, il m'a dit, Aurélien, il me dit, tiens, le club, il a vraiment changé, il a évolué, il s'est structuré, toi, c'est tout ça aussi qui fait que ça devient un grand club, entre guillemets, parce que c'est de la Fédérale 1, et voilà. Mais c'est tout le club qui s'est structuré, c'est pas seulement les bons résultats et le fait qu'ils montent en Fédéral 1. Aurélien, il m'a dit, dans le bon sens du terme, le club, il a vraiment changé, c'est stable, c'est c'est d'aplomb chez tout le monde, à tous les niveaux, chez les éducateurs, chez... Voilà, il était surpris du changement du club en 4-5 ans. Bon, je crois que ça fait 4-5 ans qu'il était parti.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Jérôme Di Tomaso qui répond aux questions de Christian et Dédé.
Au niveau national, c'est une super année pour le rugby charentais. Le SA15 remonte en Pro D2, le Cognac se maintient en national, et puis Barbezieux, pareil, hein, un peu au bout du suspense, monte en fédéral une.
Tu prends Barbezieux, cette petite ville, parce que c'est quand même une petite ville, même si c'est associé à Jonzac et tout ça. De jouer en fédéral 1, c'est quand même déjà un premier exploit, tu vois, parce que normalement, les clubs qui jouent en fédéral 1, c'est des villes un peu plus conséquentes, avec des beaux budgets, avec quelque chose de stable. Faut pas oublier que l'UBJ, c'est quand même un petit club qui est récent, qu'on fait une fusion il y a 4-5 ans, à peu près, qui au départ était structuré moyennement et qui a formé son club, qui a construit son club de très très bien, quoi. Cette année, ils ont fait un très bon recrutement, c'est d'aplomb, quoi. C'est pas, je vois sous la houle. Alors c'est toujours, moi je suis toujours le premier fan de Vincent Doigt, bien sûr, qui est président, ou je sais pas le nom exact qu'il a dans le club. Il y a Guillaume Ajac qui fait un gros boulot aussi parce qu'il est directeur sportif.
Jean-Henri Tombard.
À tous les niveaux, ils ont structuré, ils ont pris beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'éducateurs, et tout ça, ça compte.
Ils ont un type comme Jean-Henri Tombard qui est responsable du développement, donc on sent très bien qu'il y a une volonté affirmée de pouvoir mettre l'UBJ dans les meilleures dispositions pour disputer le championnat de Fédéral 1.
Ouais, voilà, mais ils l'ont fait pas qu'en recrutant des bons joueurs de rugby.
C'est juste.
Prêts à jouer en Fédéral 1, ils l'ont pris en recrutant un staff, des éducateurs compétents, et un peu tout ce qui va autour, quoi, des gens qui s'occupent du club et tout, quoi, tout va bien.
Oui, puis on se rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, on voyait, alors toi du banc de touche et puis moi des tribunes, on voyait un derby entre la Couronne et l'UBJ en Fédéral 3.
Et surtout, il faut surtout pas oublier à Barbezieux qu'ils ont fait une beau dégât. Alors, j'en parle parce que chez eux, c'est très important. Et si vous allez au stade, vous comprendrez pourquoi. Il y a la bodega est toujours pleine. Ils ont fait une superbe bodega qui est vraiment un lieu de vie. Et ça fait tourner le club aussi. Vous savez, je l'ai déjà dit, alors, c'est un lieu de rencontre. C'est, voilà. Donc, ils ont fait une bodega qui est fantastique. Et c'est vraiment un vrai lieu de vie.
D'ailleurs, pour toi, Dita, est-ce que c'est un exploit que l'UBJ soit monté de Fédéral 2 en Fédéral 1? Est-ce que c'est vraiment un exploit? Est-ce qu'on peut parler d'exploit? Parce que c'est vrai que le vécu dans cette division, au final, ils étaient, je crois, promus, ou en tout cas, c'était peut-être leur deuxième saison. Est-ce que pour toi, c'est un exploit vraiment d'être monté en Fédéral 1?
Non, je dis pas que c'est un exploit. Tu dis un exploit, c'est toute la saison, ils avaient été moyens, et qu'en phase finale, ils font, sur trois matchs, ils arrivent à créer la surprise. C'est un exploit, c'est quand tu crées la surprise. Si tu veux, ils ont été bons toute l'année, quand même, toi. Ils ont fini deux ou troisième de poule. Ils ont eu des bons résultats toute l'année. Alors, bien sûr que quand tu montes, c'est toujours super, mais c'est pas un exploit. Un exploit, c'est quand tu t'y attends pas. Là, avec les résultats qu'ils ont eu toute l'année, c'est une suite logique, quoi.
Ton regard sur la Couronne, qui a été donc, je crois, ton dernier club que tu as coaché.
Mon regard, c'est que c'est compliqué. Que l'année dernière, ils ont passé une saison très compliquée. Voilà, quoi, c'est très compliqué. L'année dernière, ils ont gagné un match. Je crois que c'est contre Maran à la maison. Donc, ils ont dû finir en fin de peloton avec Maran. Et ça a été très compliqué. C'est des saisons qui sont compliquées. Voilà, après, ça reste quand même un club local, à côté d'Angoulême, avec un réservoir, un potentiel de réservoir qui peut être énorme, quoi. Voilà, il faut. Alors, je sais que cette année, ils ont changé de coach, et pourtant, l'année dernière, j'avais un coach que moi, personnellement, j'aime bien, le petit Tristan, là, qui était super, qui a signé à Barbezieux, d'ailleurs, qui va s'occuper des gars à Barbezieux, qui est très bien. Voilà, la sauce a pas pris. Il y a plein de raisons qui font que, voilà. Cette année, ils ont changé, ils ont des nouveaux coachs qui sont, j'espère qu'ils tiendront la route. Et puis, il faut qu'ils avancent, quoi.
C'est vrai que par rapport à la Couronne, bah, j'ai suivi les deux saisons en Fédéral 3, notamment la première avec Ditom, où on s'est découvert. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Ditom, c'est, moi, je connais surtout le football, mais c'est vrai que pour moi, un bon entraîneur, c'est pas forcément celui qui maîtrise les meilleures tactiques ou qui maîtrise peut-être les gestes techniques à la perfection. Pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui arrive à tirer 100% de son effectif, ou voire 110-120%. Et c'est vrai que sur cette première saison, la Couronne débarquait en Fédéral 3 avec un petit budget. Il y avait quand même des grosses équipes.
T'as raison, Christian. Mais déjà un entraîneur, il doit être entraînant. C'est là, c'est la base. Je le dis parce que c'est souvent pas le cas. C'est pas le cas. Après, tu sais, c'est marrant de dire ça parce que tu sais ce que c'est qu'un bon entraîneur pour tes joueurs. C'est celui qui te fait jouer. Ça, c'est aussi la vérité. Après, quand t'es entraîneur, ce qu'il faut arriver à faire, tu sais, on n'a pas toujours de bonnes équipes, mais le plus important, il n'est pas là. Quand t'es entraîneur, il faut arriver à faire prendre conscience aux gars qu'on peut quand même y arriver. Et à partir de là, mais même si on n'y arrive pas, à partir du moment où tout le monde est allé dans le même sens et tout le monde a cru à la même histoire, déjà, t'as gagné. Moi, je me rappelle, on a fait des phases finales. Je sais plus en quoi on a perdu, en huitième ou en quart. On est monté. Et à un moment, le but du jeu, c'est d'arriver à faire croire aux joueurs que oui, on va monter et que oui, on peut être champion. Parce que le but, quand tu joues au rugby, bien sûr, c'est de monter, mais on rêve tous d'un truc. Moi, j'ai toujours rêvé d'un truc, c'est d'être champion de n'importe quelle équipe, même si c'est un petit nouveau, t'es quand même champion de France. Le but, il est d'arriver à faire croire aux gens, aux joueurs, qu'ensemble, on peut y arriver, que c'est possible. Et à partir du moment où ils y croient un petit peu, tu sais, après, ça fait boule de neige, ça fait boule de neige, ça fait boule de neige. Et un jour, peut-être, on y arrive. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. À partir du moment où on a cru ensemble et qu'on a rêvé ensemble, eh ben, t'as gagné quand même, quoi. Tu vois, t'as vécu quelque chose de super ensemble et tu t'en, et voilà, c'est ça qui marque une histoire d'une équipe.
Ouais, et puis c'est vrai que quand vous avez obtenu le maintien en laissant derrière vous Partenay et Chauray, si je dis pas de bêtises, pour moi ça avait été un, alors je vais peut-être reprendre le terme d'exploit, peut-être que là ça se rapproche plus de l'exploit. Et moi la question que je voulais te poser, Tom, par rapport à ton ancienne activité d'entraîneur, c'est finalement quelle partie de la saison tu préférais? Est-ce que finalement c'était la préparation estivale finalement, c'est là que le groupe se construit, c'est les premiers entraînements, les premières aventures, ou c'est finalement vraiment de manager ton groupe de match en match?
Non, mais moi, j'aime tout. Alors, d'abord, l'équipe, elle se construit à la fin de ta saison. Si tu veux que, quand tu finis ta saison au mois de mai, là, tu construis déjà la saison de l'année d'après. Parce que, la saison, elle est finie, t'as des regrets, t'as des joies, t'as tout ça. Mais pour que tu sois bon la saison d'après, il faut préparer ton groupe. C'est-à-dire, il faut aller chercher 2-3 joueurs par-ci. Il faut aller chercher 2-3 joueurs par-là. Moi, je me rappelle la première année que je suis allé à la Couronne, je suis allé chercher 2-3 joueurs, mais sans eux, j'y serais pas arrivé. On est monté parce que je suis allé chercher, toi, de tête, j'en oublie. Je suis allé chercher le petit Thomas Bouche, qui était un milieu extraordinaire.
Oui.
Lui, il nous a aidé à faire tout ça. Je suis allé aller chercher un autre joueur là, et puis un autre joueur là, et puis un autre joueur là. Et c'est tout ça qui fait que 3 mois après, quand ta saison elle commence, c'est 2 fois moins dur. Si tu fais pas ce travail intensif pendant 2 mois, d'aller dire au mec, viens chez nous, parce que, voilà, t'auras la Couronne, t'auras pas d'argent, mais tu vas voir tes potes, tout ça, tu dis ce que tu veux, hein, chacun a son, c'est comme un commercial, hein, chacun raconte son histoire. Mais si t'es pas bon pendant ces 2 mois-là, bah, tu vas démarrer au mois d'août, et tu sais que ça va être compliqué, quoi. Donc, la saison, elle commence vraiment fin mai, quand t'as fini ta saison, elle commence. Après, tous les moments sont bien à faire. La rentrée, quand tous les joueurs, ils arrivent, ils sont enthousiastes. Toi, t'es enthousiaste aussi, puis il fait beau, t'as envie de t'amuser, t'as envie de jouer, tout est bien, les phases finales, tout est bien. Bon, moi, j'aime tous les moments de la saison, j'aime surtout les moments quand on gagne, hein. Parce que quand tu perds,
oui, c'est compliqué. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que parfois, les retours sont longs en bus quand on perd.
Ouais, après, ce qu'il faut, c'est, malgré tout, c'est aussi aimer les gens. Parce que, tu sais, alors moi, c'est ma façon de penser. Là, je te parle de la Couronne, on n'entraîne pas des pros, mais il faut aussi se mettre au niveau du joueur. Il faut pas être au-dessus d'eux. Il faut prendre conscience qu'ils peuvent t'apporter autant que toi, tu peux leur apporter. Et puis, c'est une vie de famille. C'est compliqué. Hein. Regarde une vie de famille. Que tu sois avec tes enfants, avec ta femme, c'est pas tous les jours rose. Il y a des fois, on a tous une femme ou vos femmes. Elles ont toutes un mari. On n'est pas parfait l'un pour l'autre. Mais on prend ce qu'il y a de bien à prendre. Moi, j'ai des joueurs, ils étaient, je sais pas, ben, puis ils savaient pas plaquer, mais par contre, ils étaient très bons en attaque. J'ai dit, ben, très bien, ça me va. Voilà, il faut prendre le bon côté des joueurs. Il faut prendre le bon côté de la personnalité. C'est une vie de famille, on prend ce qu'il y a à prendre. Moi, j'ai joué avec des mecs, ils étaient un peu cons, des fois, je le sais. Mais, par contre, ils étaient bonnards sur d'autres choses. Voilà. Il faut essayer de laisser de côté leur mauvais côté. Moi, j'avais un jour, ils savaient pas plaquer. Je lui ai dit, c'est pas grave, tu plaques pas, toi, je sais que tu sais pas plaquer. Je vais te mettre un mec toujours à ton intérieur qui va fusiller les mecs pour toi. Je lui ai dit, par contre, ce que tu sais faire, tu vas le faire bien. Il faut essayer de composer, C'est, et puis, c'est, je dis, c'est comme une vie de famille, mais c'est pas vrai, parce que au rugby, on est 25, une vie de famille, t'es entre 2 et 6, quoi, tu vois.
Je comprends, Jérôme, que ta vie de famille, c'était plus le rugby, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction à cette émission, que le rugby, c'était les gens de famille. Quand on t'écoute, on s'aperçoit que t'es coach, t'es recruteur, et d'autre part, il y a cette relation qui vient en plus entre les joueurs et toi-même.
Mais tu sais, j'ai l'impression qu'un entraîneur, il doit tout faire. Je prends souvent l'exemple de Fabrice.
C'est ce que j'apprends.
Je prends souvent l'exemple de Fabrice Landreau, parce qu'on est proche et tout ça et tout ça. Mmh. J'ai l'impression qu'il fait tout, lui, dans le club. Il fait tout, il s'occupe de ça. Il n'est pas entraîneur, il est entraîneur, il est manager, il est recruteur, il va voir les gamins, voilà. Mais c'est ça, un entraîneur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres sports. Il y a des gens qui sont passionnés, qui sont capables de tout faire. Je sais que, par exemple, dans des clubs, moi, je ne me suis pas bien occupé des jeunes, des gamins, parce que manque de temps, parce que plein de choses. Mais peut-être qu'un entraîneur d'équipe première, il devrait aller voir les juniors pour les motiver, pour les faire avancer un peu plus vite, pour plein de choses. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas su faire. Je sais que Fabrice le fait un peu. Je sais que dans des grands clubs, il y a des entraîneurs de première qui vont voir les jeunes. C'est super. Mais un entraîneur, il doit être capable de tout faire. Il est manager, il doit recruter en recrutement, il doit faire gaffe aux finances, aller voir, faire le gentil avec les sponsors. En fait, on fait tout, quoi. Mais après, il y en a, c'est leur métier aussi, hein. C'est plus simple.
C'est complexe, ce rapport, parce qu'au final, l'entraîneur, il a toutes les tâches que tu dis, il a même plus de tâches hors du terrain que sur le terrain. Et pourtant, ce que le grand public voit dans les tribunes ou à la télé, c'est finalement, c'est seulement le travail sur le terrain de l'entraîneur. Donc c'est compliqué de gérer un entraîneur, alors qu'au final, on le voit que dans 20% de ses missions.
Exactement, exactement. Mais c'est, tu sais, souvent, moi, je vois au marché, en plus, tu vois des gens. Qu'est-ce que tu penses de, alors, on parle des entraîneurs. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, moi, tant qu'il m'a pas entraîné, je peux pas te dire ce que j'en pense. Parce que la réalité, elle est là. C'est que c'est facile de juger quand on est là à la tribune ou quand ça perd. Mais voilà, un entraîneur, moi, j'ai les mecs qui sont pas contents, ils vont à l'entraînement, ils mettent le short. Alors, même si maintenant tu peux plus faire avec les grands, mais tu prends un club, tu vas, tu mets le short, tu t'entraînes, tu fais la même chose que les joueurs font, et après tu critiques.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Jérôme Di Tommaso qui répond au feu croisé des questions de Christian et de Dédé. Christian, c'est à toi.
La prochaine question va porter sur l'ensemble de ta carrière, dit Tom, en tant qu'entraîneur. T'as entraîné pendant de longues années. Est-ce que ta façon de faire, ton management, finalement, a changé entre tes débuts et ta fin de carrière? Parce que des générations, t'as dû en voir des différentes. Et j'imagine qu'on parle pas aux mêmes générations, on parle pas aux différentes générations de la même manière.
Ouais, alors, écoute, quand j'ai démarré, j'entraînais à l'époque, c'était le SCA. J'ai essayé, alors j'ai beaucoup, je le redis toujours, on en revient toujours à la même chose. Alors d'abord, c'est toute ma carrière de joueur qui m'a fait avancer. Il y a des gens qui m'ont fait avancer plus que d'autres. J'ai beaucoup travaillé avec Fabrice, qui m'a aidé à comprendre des choses ou à mettre en place des exercices, tout ça, tout ça. Si on suppose que la première année que j'ai entraîné, en fin de saison, j'ai fait un bilan de tous les exercices que j'avais proposés. J'ai estimé que il y avait à peu près 20% de choses qu'il fallait que je garde. Et tout le reste, je l'ai viré. J'ai recommencé à zéro. Si tu veux, j'ai gardé 20% de mon contenu et j'ai essayé de renouveler, de changer et de m'adapter. La deuxième année, j'ai dit, bon, OK, là, il y a peut-être 30%. Et voilà, et à chaque année, je gardais ce que j'estimais qui allait faire avancer le groupe et je virais le groupe. Alors, j'essayais de voir ailleurs ce qui se faisait. Voilà, tu sais, on n'invente rien, on se fait tous un peu les mêmes schémas. Hein. Mais j'ai essayé d'avancer comme ça. Mais la vérité de ce qu'il faut faire, on l'a pas tous, quoi, tu vois. Surtout à mon niveau, on n'est pas pro, on essaye de faire. Voilà. Après, quand tu le fais avec passion, tout ce que tu fais mal, ça passe quand même, quoi. Voilà. Et puis on t'en tient par rigueur. Et puis à partir du moment où tu te remets en cause et que tu te sens pas au-dessus des autres, Tout est plus acceptable.
Au final, on est loin du prof des écoles, entre guillemets, qui garde son même programme pendant 20 ans et qui finalement, le 8 septembre, entraînement du 8 septembre, il y a ça, enfin, c'est. Et puis même, dans ce schéma-là, on s'en irait vite, je pense.
Tu sais, moi, j'ai des cahiers de la première année où j'ai entraîné. Moi, j'ai les cahiers, je marque tout. Alors, je suis pas sur ordinateur, moi, je marche à l'ancienne. J'ai un cahier, tu prends ma première année, je peux te dire ce que j'ai fait, quel jour, quelle heure, le temps qu'il faisait, quelle équipe a joué le dimanche, combien de temps, qui a été bon. Voilà. Et l'année d'après, j'ai la même chose sur les entraînements, sur tous mes contenus, tout ça. Et tout change parce que d'une année à l'autre, alors, par exemple, sur la préparation physique, ça change pas trop la prépa physique, tu sais. Oui. D'une année à l'autre, ça change un tout petit peu, mais c'est minime. Donc là, tel jour j'avais fait ça, j'essaye de reprendre un peu d'être à peu près cohérent sur des choses-là. Sauf si à un moment, je trouve que c'était pas adapté, alors à ce moment-là, je change. Mais après, sur le contenu, il change. Toi, sur la première année, ça a changé à 80%. Sur la deuxième année, ça a changé à 70%. Et je sais très bien que même si tu entraînais 20 ans, il faudrait toujours en changer parce que tu serais toujours loin du compte.
Et grosso modo, les grosses valeurs que tu as pu apprendre au coaching au fur et à mesure du compte, on en apprend de toute façon tous les jours, mais grosso modo, quelles sont vraiment les deux, trois grosses valeurs qui ressortent de...
Mais les valeurs, c'est les mêmes que quand tu jouais, tu sais. Oui. Et puis, tu sais, on a toujours tendance à croire que le rugby, c'est nous qui avons les plus belles valeurs, les plus tout ça. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais nous, tu sais, on est un peu... On a des œillères, des rugbyman, et on croit toujours qu'on est le plus beau. Mais tous les sports sont comme ça. Mais des valeurs, on en a plein. Mais c'est des valeurs que tu gardes plus tard. Mais pas avec tout le monde. Parce que tu sais, on se retrouve là, je sais pas, j'ai 55 ans. Quand je jouais il y a 20 ans, t'as plus que 10 copains seulement sur les 50 avec qui tu jouais. Je dis 50 parce que quand tu fais une saison, on est 50. Hein,
oui.
Pour l'équipe 1 et l'équipe B. Mais il te reste quand même 10 copains. Je sais pas s'il y a des gens qui ont encore 10 copains quand ils étaient en 6e, et puis 10 quand ils étaient en 5e, etc., etc. Mais moi, j'ai 10 copains de l'année 2000, j'ai encore 10 copains de l'année 2001, qui sont 10 autres, etc., etc. Alors même si on en a que 10, c'est quand même pas si mal, toi.
Ouais,
c'est tout ça qui reste. C'est toutes ces histoires à raconter, c'est tout ça. Et puis c'est quand on se revoit aussi, c'est tout ça qui compte. Quand on se revoit, je sais pas si ça se fait. Toi, il y a encore 3 mois, on a organisé peut-être les 35 ans des anciens du bataillon de Noirville. On l'a fait pas loin, c'est Fabrice qui l'a fait, on l'a organisé à la Tremblade. Fabrice s'est occupé de tout. Et quand on se revoit, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Oui. Alors, bien sûr, maintenant, on joue plus. On est tous un peu vieux. On est tous un peu grisonnants. On est tous un peu bedonnants. Mais on prend tellement de plaisir à se voir. C'est tout ça qui est.
Et sur tes souvenirs, t'as forcément des bons et des mauvais souvenirs. Parce que là, tu évoques un petit peu ton passé, comme si ton passé était fini. Non, je pense que t'as encore peut-être quelques années à pouvoir donner encore de ta connaissance. Quel est ton meilleur souvenir et celui qui malheureusement t'a un petit peu déçu?
Le meilleur souvenir, j'en ai plein dans le sport. J'en ai plein.
Et t'as bien une image qui ressort plus que l'autre?
Non, pas. Il y a tellement de moments. Tu sais, j'ai pleuré autant de fois quand j'ai gagné des bons matchs qui m'ont fait vraiment plaisir. Tu sais, souvent, moi, j'ai gagné, on a les larmes aux yeux parce que soit c'était un exploit, soit c'était une montée, soit c'était un titre. Voilà, ça, j'en ai plein. Et j'ai eu des fois où j'ai eu des larmes parce qu'on pleurait un match qu'on avait tellement envie de gagner qu'on a tellement été, voilà, j'ai en fait des. Quand tu fais du sport, t'as autant de bons souvenirs que de mauvais. Sauf si tu joues à Toulouse et tu gagnes 80% de tes matchs. Mais autrement, on a autant de mauvais souvenirs que de bons souvenirs.
Ça, c'est vecteur d'émotion.
C'est de l'émotion, c'est même pas des souvenirs. T'as raison, c'est de l'émotion.
C'est pour ça qu'on aime le sport. Au final, c'est à la fois il y a tout qui s'entrechoque, des victoires, des défaites, et puis surtout c'est notamment dans un sport co, c'est des rencontres qu'on ferait pas dans nos vies tous les jours.
C'est des mecs contre qui t'as joué, avec qui t'as joué. Et c'est surtout un respect, tu vois.
Oui.
C'est un respect.
On a bien compris que le rugby est une histoire d'homme. Hein. C'est une histoire de rencontre.
Et je pense qu'il y a des tas d'autres sports qui sont des sports d'hommes aussi. Toi, comme je te le dis, tu prends les handballeurs, par exemple. Ils sont aussi couillus que les rugbyman. Ils sont aussi rudes que nous. Ils sont aussi fêtards que nous. Ils sont aussi costauds, tout ça, mais tu vois, c'est tout con. J'ai regardé le Tour de France cette année. Alors, c'est vrai que je sais que la moitié des mecs qui regardent le Tour de France, pas d'abord, il y a seulement la moitié qui regarde. Les autres, ils disent, ouais, c'est pas marrant, j'y prends aucun plaisir. L'autre, ils te disent, ouais, c'est tout, c'est dopé. L'autre, ils te disent, c'est tout ça. Mais, comme on dit, les mecs, ils sont couillus quand même, ils sont seuls sur le vélo, c'est compliqué. Moi, j'ai un grand respect pour les cyclistes. Pour un mec qui fait de la natation aussi, c'est pareil. Pour tous ces sports individuels, tu sais, au rugby, quand t'as un moment de faiblesse, ça se voit pas trop. tu sais, tu pousses pas en mêlée, personne le voit. Hein. En vélo, tu mets pas trois coups de pédale, pium, t'es déjà à 200 mètres. Hein. Mais tous ces sports ingrats, tu sais, c'est les mecs, je veux dire, qui sont connus aussi, ils sont, c'est des bonhommes, hein. Même si c'est vrai que c'est des sports qu'on aime moins, qui sont différents, on en parle moins. Mais il y a des sports, c'est compliqué, hein.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Jérôme Di Tomaso qui répond aux questions de Christian et Dédé.
Tu étais hyper connu sur les pelouches charentaises. Est-ce que tu penses que sur, notamment sur ta fin de carrière, ça, la réputation que tu avais, dit Tom, ça t'a aidé à recruter des joueurs que tu voulais absolument?
Alors, c'est pas ma réputation qui m'a aidé. C'est le... Alors, je veux pas dire l'amitié avec les mecs, c'est que d'abord, mais c'est comme un commercial, il faut savoir parler aux mecs. C'est quand tu vois un produit, quand tu vas chercher un joueur, tu vois un club. Tu vois? Tu vois un club, c'est du démarchage que tu fais quand tu vas chercher un joueur. Mais c'est pas le fait d'être connu, c'est que tu crées des liens toute ta vie avec des gens. Si tu les connais et qui te connaissent et qui te font confiance, c'est plus facile pour toi de les attirer. C'est une forme de respect. Déjà, s'ils viennent, toi, t'es satisfait. Parce que tu te dis, bon, je l'avais entraîné là-bas, s'il vient ici avec moi, c'est que ça s'est pas si mal passé. Donc, c'est une satisfaction aussi de faire venir des gens que tu connais. C'est plein de choses, quoi, tu vois. Mais non, d'être connu, c'est pas ça qui sert. Peut-être un petit peu, je me rends pas compte, en fait. Ce qu'il faut, c'est savoir parler aux personnes et leur dire les bonnes choses. Voilà, tu sais, t'as de choses à dire. Un joueur avant un match, tu dis voilà, aujourd'hui, tu peux dire, il y a ton père à la tribune, tu vas jouer pour lui, il y a tes enfants. Et puis, il y en a, ils s'en foutent de tout ça. Il y en a, tu vas leur dire, tu vas jouer parce que t'es un tocard et qu'il y en a marre que tu sois un tocard et que maintenant, on veut que tu te bouges le cul. Quoi. Ça dépend, il faut s'adapter un peu à ton public. Et le joueur, il a envie que tu lui dises ce qu'il a envie d'entendre. Donc, t'as 20 joueurs, il faut que t'aies 20 discours avant un match et avant un recrutement. C'est pareil pour motiver le mec, pour l'inciter à venir, pour le transcender avant un match et pour qu'il fasse un bon match, il faut que tu fasses un discours. Ils ont pas envie d'entendre la même chose. Il y en a, il a envie de lui dire que, il y en a, il faut que tu lui dises qu'il est beau, parce que si tu ne lui dis pas qu'il est beau, il va pas faire un bon match. Et puis il y en a, il faut pas que tu lui dises qu'il est beau. Parce qu'autrement, au contraire, il faut que tu lui dises que c'est un tocard, parce qu'il nous fait chier de jouer comme une pompe.
T'as mis très raison, Jérôme. T'as parlé tout à l'heure d'un boulot de commercial, mais c'est tout à fait ça. Dans toute ta carrière, tu rencontres des gens et que forcément, c'est pas le. T'as quelque chose à vendre et que ce quelque chose à vendre, c'est pas forcément le même discours que tu vas tenir à tes interlocuteurs.
Après, malgré tout, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait dans ton discours un peu de vérité aussi pour être crédible. Parce que à un moment, je crois que quand un joueur il est pas bon, il faut lui dire. Et ça arrive à des joueurs bons qui sont moyens, tout ça arrive. Je crois qu'à un moment, il faut lui dire, il faut le mettre devant ses responsabilités, que ce soit en bulle à bulle ou devant ses coéquipiers. Et je crois qu'un joueur qui est bon, à un moment, il faut le dire, voilà, il faut lui dire, écoute, c'est bien, continue. Je crois qu'il faut savoir valoriser et puis à un moment, mettre les gens devant le fait. Mais il faut dire les choses à un moment. Je crois qu'il faut. Enfin, moi, je fonctionnais comme ça. Après, prendre des pincettes, c'est pas toujours mon truc. Même si j'aime les mecs, hein, tu sais, il y a des tas de mecs que j'aime et à un moment, je leur dis leur cas de vérité. Hein. Ça n'empêche pas d'aimer les types. Hein.
De toute façon, c'est ce qu'il faut pour avoir une vie de groupe saine. Il faut se dire les choses.
Ben, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut, mais c'est un prix. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. Après, tu sais, T'as 2000 entraîneurs, sur 2000 entraîneurs, t'as 1000 mecs qui vont dire les choses pareilles et 1000 qui vont dire les choses différemment.
Tout à l'heure, tu évoquais le top 14 et si tu veux bien, Jérôme, on va s'arrêter quelques minutes là-dessus. Donc, l'année dernière, ça a été une année magnifique pour la Charente-Maritime avec la victoire de La Rochelle en Coupe d'Europe.
Écoute, moi, j'ai vu le match. Franchement, tous ceux qui l'ont vu, ils diront la même chose. C'était super. C'était pas gagné. Jusqu'à la fin, on a soufflé, on a poussé avec eux. Ils étaient sur la ligne. Ça marquait pas. Enfin, c'était un match super. Surtout que on n'était pas objectif. Je pense qu'on était tous pour La Rochelle. Je pense sincèrement qu'ils méritaient de gagner. Après,
oui, c'est plutôt logique pour moi.
Ouais, pour moi, c'est logique, mais parce que je poussais derrière eux. Et c'était super. Ouais. Le match qu'ils font, c'était super. Ils ont dû laisser beaucoup d'énergie parce que la semaine d'après, sur les phases finales, ils étaient un peu moins performants. Mais bon, ils avaient fait l'essentiel.
Quand on voit on parlait de lien social tout à l'heure, quand on voit l'importance qui est prise par un club comme La Rochelle dans sa ville, de voir avec 35 000 personnes qui les attendaient sur le Vieux-Port, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Là, ce qui est extraordinaire, c'est bon, ça, on le savait tous qu'il y aurait du monde comme ça. C'est d'aller à un match à La Rochelle. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Je ne sais pas si tu es allé, Didier.
Non, j'ai pas eu cette chance-là encore.
Ben, je le dis, toi, déjà, dans le... j'ai tout dit parce que je dis que c'est une chance parce que c'est des moments super. On voit tellement, en plus en ce moment, on voit tellement de choses dans le foot sur les stades qui dégénèrent et tout ça et tout ça. Il faudrait, ça prendrait comme exemple d'aller à La Rochelle. Mais tout est super, la vie autour du stade, la vie dans le stade, parce que c'est lui dans le stade. Tu vois le fonctionnement des buvettes, des avant-matchs, des ventes de maillots, de tout, tu vois, c'est super. Ça fonctionne, c'est une économie interne, bref, c'est tout super. C'est tout. Moi, j'aime y aller parce que pour l'ambiance, les stades sont pleins, tout. J'adore aller là-bas, j'adore aller chez Jean-Pierre Lissane. Il y a un petit bar autour du stade. Avant le match, on va chez Jean-Pierre, on fait un peu le match, c'est super. Mais il y a une ambiance de fou, c'est super. C'est un petit peu loin, c'est dommage, mais c'est ça.
C'est la seule chose qui leur manque maintenant, et c'est probablement un des objectifs de la saison, c'est d'aller chercher le bouclier de Brennus.
Ouais, ça leur manque, ce sera pas facile, même si j'ai l'impression qu'ils ont fait un bon recrutement. Mais tu sais, il y en a tellement qui peuvent l'être et qui ne le sont pas. Il y a une place pour 14 clubs. Et sur les 14 clubs, ils ne sont pas tous capables d'y être. Mais
je pense seulement qu'il y en a 8 ou 10 qui peuvent être sur Pont de France. Moi, je suis ça un peu d'un œil extérieur.
J'allais dire 6-8, quoi, tu vois. Il y en a 6-8.
Ouais, tout à fait. Même d'aller en phase finale, c'est très compliqué.
C'est tellement, même c'est compliqué. Tu te rends compte l'an dernier, les équipes qui ne se qualifient pas et qui sont bonnes, quoi, tu vois. C'est très, très dur.
Bon, hein, ça sera compliqué quand même. Je pense que pour le Stade Rochelet, ça sera compliqué. J'ai vu le match dimanche. Il y a meilleur.
Match, hein, aussi, Christian, c'est le premier match.
C'est Dédé.
Ouais, excuse, Dédé. C'est le premier match.
Non, c'est pas grave, Giro.
En plus, ils jouent Montpellier, qui sont quand même champions de France, qui sont. Voilà. C'est pas simple.
Ils font partie incontestablement des 6 ou 8 équipes comme toi et Christian l'évoquait, qui est un candidat potentiel au titre suprême. Hein.
Je trouve que c'est resserré quand même cette année. Hein. Comme vous disiez, il y a 8 équipes. Ouais, c'est un beau championnat, hein, le top 14.
Ah ouais, mais c'est de plus en plus dur. De toute façon, c'est de plus en plus compliqué.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Jérôme Di Tommaso qui répond au feu croisé des questions de Christian et de Dédé. Jérôme, Montpellier champion, qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors écoute, moi d'abord, j'étais content pour Philippe Saint-André. C'est surtout pour ça que j'étais content. Parce que je le connais personnellement et que j'avais envie pour lui qu'il soit champion. Après voilà, c'était pas mes favoris au départ, mais tu sais, j'ai tendance à dire que nous on aime tout le monde, on a des favoris, mais on aime tout le monde quand même. Donc c'est bien qu'ils étaient champions. Sur la finale, ils le méritent, hein. Oui, d'entrée, ils ont saisi les matchs, ils ont asphyxié le Castres, et puis il n'y a rien à dire sur le match. Hein.
Ouais. Castres, c'est vraiment une équipe de pénible à jouer, hein, Jérôme.
Ouais, ils sont surprenants, surtout, c'est que en début de saison, si tu dois parier, tu paries sur tout le monde sauf Castres. Et puis à la fin, ils sont toujours là, quoi. Ils sont agaçants.
Ouais, ils ont. Je vais mettre une pièce sur eux alors.
Hein?
Je vais mettre une pièce sur eux du coup.
Ouais. Bah ouais, mais là quand même, ils ne peuvent pas faire le coup tous les ans, tu sais.
Ouais, tout à fait.
Et moi, jamais je mets une pièce sur eux, mais ils sont toujours là. Voilà.
Et puis ils ont 2 titres de champion de France là, dans ces 10 dernières années, donc c'est révélateur. Hein.
Ouais, c'est. Mais comme je te dis, moi au départ, je ne mise pas sur eux, mais ils sont là. Je dis voilà, c'est comme ça. C'est des équipes surprenantes.
Par rapport à la concurrence européenne, enfin moi je sais que quand j'étais gosse, je regardais les matchs de Coupe d'Europe sur France 2 avec Pierre Salviac et compagnie. Et c'est vrai qu'il y avait toujours les clubs anglais, Northampton, Bath, Sale, Leicester. À l'époque de Brive, quand Brive était champion d'Europe, ces clubs-là, enfin le championnat anglais par rapport au championnat de France, il a vraiment vraiment baissé en qualité, dit-on.
Moi, je pense pas qu'il ait baissé. C'est pas parce qu'on sur un an on va être champion à leur place. Bon là, ça fait 2 années de suite que c'est des clubs français. Mais moi, je pense pas que leur championnat ait baissé. Que ce soit les Irlandais, les Anglais, tout ça, non, c'est pas mal. Tu vois leur équipe nationale, elles vont pas baisser. Hein. Regarde encore l'Irlande qui est super. Oui. Même si aujourd'hui on a gagné le tournoi des destinations, je trouve que à n'importe quel moment ils seront dangereux.
Les Irlandais, on a une belle équipe de France quand même là.
Oui,
je pense qu'on a une belle équipe de France.
Ouais, mais t'as raison, on a une belle équipe de France, on a gagné le tournoi. Ouais. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on soit très bon dans un an et que tout le monde va très bon dans un an. C'est un compliqué, il faut qu'on tienne. Et voilà, on rêve tous d'un truc, c'est d'être champion. Voilà. Alors, je sais pas si aujourd'hui on est favori ou pas. Toi, les Irlandais peuvent l'être, hein, ils viennent de gagner deux fois en Nouvelle-Zélande. Et puis tout le monde peut l'être, l'Afrique du Sud. Bon, on sait pas, on verra. Après, on a l'avantage que ça se passera en France. Puis on verra bien comment ça se passe.
Est-ce que tu crois que Galtier et son staff ont apporté un plus à cette équipe de France depuis qu'ils s'en occupent?
Alors moi, j'en suis presque convaincu, mais c'est toujours pareil. Je connais un petit peu Fabien, donc je suis toujours pas objectif. Mais ouais, moi, je pense que réellement, ils ont apporté quelque chose. D'abord, ils ont fait des changements dans les joueurs. Il y avait des anciens joueurs, sans citer nom, qu'on voulait voir changer, ils ont ramené des jeunes. Et puis, tous les gosses qui jouent, là, ils sont super, je vois. Ils ont tous été bons, il y a plein d'envie. Tu sens qu'entre eux, ils s'entendent bien. Il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe, quand même. Alors, c'est plus facile quand tu gagnes. Hein.
Oh, et puis, il faut dire aussi que le résultat parle pour lui.
Oui, voilà, quand tu gagnes, tout va bien. Mais moi, j'ai l'impression que, de l'extérieur, bien sûr, c'est facile. Hein. J'ai l'impression que tout va bien, que voilà, il ne faudrait pas que quelque chose arrive pour enrayer tout ça. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, ils font du jeu. J'ai l'impression de moins m'ennuyer sur un match. Quoi. Tu vois, ils essayent de provoquer les choses.
Avec ce que tu disais tout à l'heure au niveau du choix des joueurs, Jérôme est très significatif parce qu'on a vu apparaître des joueurs, c'est dur de tous les citer, mais un nom vient tout de suite à l'esprit, c'est Jaminet, qui jouait en Pro D2 à Perpignan et qui a ensuite fait une année en top 14 avec Perpignan. Il y en a d'autres aussi, les noms ne viennent pas spontanément, mais il y a bien une douzaine, une vingtaine de joueurs. Tiens, je pense à Pierre-Louis Barassi aussi.
Il y a des joueurs qu'on connaissait pas il y a un an.
C'est clair, ouais. C'est clair. Et que eux, ils sont partis dans une optique avec un groupe entre 40 et 60 joueurs, et que là-dedans, c'est clair que c'est un réservoir important pour pouvoir se fixer des objectifs cohérents.
Ouais, je crois que c'était où, en Australie qu'on est allé là ou en deux.
L'année dernière, oui, on gagne.
On gagne avec des joueurs qu'on connaissait pas.
C'est tout super. À fait. Avec Barlow, le talonneur de Castres,
enfin bon. Ouais, voilà, ouais. Après, voilà, la Coupe du Monde, c'est dans un an, il y a un tournoi entre, il y a des tas de choses qui peuvent changer. Regarde les Blacks aujourd'hui, ils sont au fond du trou. Quoi, au fond du trou. Ils viennent de mettre pratiquement 60 points à l'Argentine, mais quand même, ils ont jamais été aussi dans le fond. Mais dans un an, ils vont en être où, tu sais pas. Et moi, ça m'étonnerait qu'ils soient aussi peu performants.
Est-ce que tu penses que c'est générationnel, leur problème?
Je pense qu'ils ont des jeunes qui sont moins. Avant, ils sortaient toujours des jeunes joueurs qui étaient au top. Là, cette année, ils n'en ont pas sorti. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'ils sont préparés à la Coupe du Monde et qu'ils ont fait beaucoup de changements justement pour cette Coupe du Monde avec des nouveaux joueurs et ils sont pas prêts, ils ont peut-être pas joué ensemble suffisamment. Il y a sûrement des tas de raisons qui font que. Peut-être que les autres sont plus forts, tout simplement.
Bon, après, c'est quand même une équipe qui répond présent à chaque grand rendez-vous.
Et les Blacks, après.
Vaut mieux lâcher 2-3 matchs amicaux et gagner la Coupe du Monde derrière.
Ouais.
D'ailleurs, vous parlez de la Coupe du Monde. Alors, moi, j'ai une question un peu stupide en non-connaisseur de rugby. C'est combien de joueurs par équipe dans le squad complet? Je veux dire, c'est 30 joueurs?
Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 32.
32, oui.
Mais j'en suis pas sûr.
Donc, ça veut dire que sur un groupe de 40-60, il y a la moitié qui sera convoquée. Donc, ça va faire jouer la concurrence à plein régime.
Ouais, ça va bien changer, surtout sur le match un peu plus simple. La poule de la France, je crois que c'est surtout les Blacks qui vont être pas mal. Après, t'as l'Italie, t'as l'Uruguay. Après, t'as une équipe qui est encore du même calibre que l'Uruguay. Donc, t'as vraiment même si je souhaite que l'Italie sorte la pomme du jeu, mais t'auras réellement que les Blacks qui vont être des candidats sérieux.
Oui, d'ailleurs, tiens, par rapport à l'Italie, moi, j'ai beaucoup suivi leur début sur le tournoi, hein, dans les débuts des années 2000. En plus, à l'époque où je faisais d'italien au Lisa, donc j'étais à fond sur Fratelli d'Italia et tout, je connaissais les paroles par cœur. Mais comment t'expliques justement que les Italiens, ils aient pas rattrapé le retard par rapport aux autres nations du tournoi? C'est vrai qu'on les voit, souvent dernier ou avant-dernier, malheureusement.
Ça va venir, Christian, ça va venir. Alors, un petit rappel, ils ont quand même gardé le dernier match du tournoi au Pays de Galles.
Oui. Ouais. Très juste.
À mon grand bonheur. Non, mais ça va venir, c'est compliqué, c'est une passion qui va rugby. Il y a plein de choses. Et puis, Et puis, écoute, le problème, c'est que, enfin, si tu regardes la France, l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, c'est quand même des nations qui sont dans les premières nations mondiales aussi. C'est compliqué pour eux de se mettre en face, voilà. Mais après, bataille. Ils ont quand même gagné le dernier match au Pays de Galles.
C'était pas neutre, oui, tout à fait.
C'était un vrai exploit extraordinaire. J'ai adoré.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Jérôme Di Tomaso qui répond aux questions de Christian et Dédé. Messieurs, on va quasiment arriver au terme de cette émission. Dédé, est-ce qu'il y a une question que tu souhaitais poser à Jérôme ?
Jérôme, malgré le peu de temps que tu as de disponible, est-ce que tu vas quand même de temps en temps aller sur un terrain de sport, voir quelques matchs ? Et la deuxième question, c'était comme les conditions maintenant reviennent un petit peu normales, est-ce que le théâtre va reprendre aussi ses droits puisque tu t'es dirigé sur pas mal de planches sur les scènes, voilà.
Alors écoute, j'aimerais bien aller voir jouer un petit peu Barbezieux. Je voudrais aller voir Ruffec aussi parce que j'ai plein de copains. Je voudrais, toi regarde Saint-Jean-d'Angély, ils ont remonté un club là. Je voudrais y aller. Je voudrais aller à Cognac voir Fabrice. Je voudrais aller à Angoulême. Je veux aller partout, la couronne. Le problème, c'est que j'ai du travail au moment où les gens jouent. Il y a plein de choses. Mais je vais essayer d'y aller. Mais pas pour voir un match. Sincèrement, voir le match, j'y vais, c'est pour voir les potes. C'est pour boire un coup. Là, c'est pour tchatcher avec les mecs. Tu sais, les dernières, par exemple, je suis allé voir Cognac une fois l'année dernière. Je suis arrivé, resté un quart d'heure de jeu. Mais c'est vrai, je m'en fous. Je suis pas allé pour voir le match, je suis allé pour, voilà. Je suis arrivé à la couronne l'année dernière, je suis allé voir un match, j'ai dû voir 20 minutes de match. Je suis allé voir, je sais plus qui je suis allé voir, mais je vois toujours 10 minutes, 20 minutes. C'est pas le plus important, c'est pas d'aller voir le match. C'est d'aller voir les gars, leur dire voilà, je suis venu, c'est d'être content de voir des têtes, tu sais. Je suis allé à la couronne, j'ai vu une quinzaine de bonnes têtes, ça m'a fait plaisir, mais ça suffit à me rendre. Pour eux, toi, c'est, le match, je m'en fous, en vrai. Toi, qui joue, c'est pas le voir. Si je veux voir un beau match, je reste devant ma télé, puis c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est voir des gens. Voilà. D'accord. Donc, je veux aller, tu vois, je te dis, je veux aller voir des gens, je veux aller dans tous ces petits clubs, voir des amis, des copains, tout ça. Pour moi, c'est le plus important. Plus que de voir un bon match, hein.
Est-ce que tu te rends compte, Jérôme, que t'es un privilégié, que dans ton travail, donc aujourd'hui, c'est pareil, le lien social, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les recevoir, de discuter, d'échanger avec eux sur des thèmes aussi vastes que la société, le sport, etc., la politique, on ne sait pas, mais bon, voilà, que c'est un privilège de pouvoir avoir ça du côté professionnel, pardon, et du côté sportif.
Mais tu sais, moi, je dis toujours, la première chose, c'est que j'aime mon travail. Alors, en général, j'aime travailler.
J'aime les gens d'abord, Jérôme.
Mais j'aime mon travail, alors sûrement parce que j'aime les gens que j'en vois, mais j'aime mon travail. Et j'ai dit, moi, je continuerai mon travail tant que j'aimerai mon travail et tant que je n'aurai pas de problème de santé. Pour toi, je suis à peu près en forme, même si, bien sûr, tous les jours tu vis, ça devient plus dur, qu'un coup t'as mal au dos, un coup au genou, un coup tout ça. Mais voilà, tant que j'ai pas de problème de santé et que j'aime mon travail, je continuerai à aller avec la banane, toi. Et après, tu sais, l'avantage de mon travail, au rugby, tu vois, des rugbyman, et on pense tous un peu pareil, on est tous obtus, on fait tous les mêmes fêtes et tout ça. Quand j'ai pris mon moyen de sport à New Shoot, tu parlais pas que de rugby, mais tu parlais que de sport. C'était quand même assez récurrent, soit foot, soit rugby, soit handball, tout ça. Depuis que je suis au marché et depuis que je fais du théâtre, il y a d'autres choses qui se passent, tu vois, et c'est super. Tu vois d'autres gens, tu parles pas que de sport, on n'est pas le centre du monde, le rugby c'est pas le centre du monde, le sport c'est pas le centre du monde, et c'est super en vrai, tu vois. Et voilà, et au théâtre encore moins, parce que tu sais, c'est une histoire pareille, si tu veux, tout se ressemble, sauf que les après rugby, les après théâtre sont complètement différents quand même, il y a plein de choses qui changent, mais c'est super, mais ça me fait un bien de parler d'autres choses, de voir autre chose. Tout est bien, ça enrichit, hein, tu sais. Je pense que c'est la diversité qui fait que tu c'est voir autre chose qui fait qu'à un moment t'évolues aussi. Donc, j'ai arrêté d'être que rugby, que sport, et j'essaye de regarder un peu ce qui se passe à côté.
Oui, en fait, c'est une ouverture à d'autres univers.
Ouais, exactement. Ouais. tu sais, les boules, nous, on nous a subvoulés, on nous a souvent dit qu'on était des bourrins. Mais même si c'est exagéré, on est souvent, on a toujours l'impression d'être le centre du monde, et on parle que de nous, que de sport, que de nos petits problèmes. Et justement, de voir tout ce qui se passe à côté, que ce soit du théâtre, que ce soit des gens au marché, sur autre chose, tu vois. Je vais marcher, tu parles pas rugby, tu parles tout.
J'avais une dernière question, mais qui a changé entre temps. Je me suis rendu compte que ma question était pas hyper pertinente. Parce qu'à la base, je voulais te demander ce que tu avais coché la date de SA15 Grenoble. Mais au final, c'est pas forcément le match que tu vas voir. Donc, je vais pas poser cette question. Mais bon, tu peux y répondre si tu veux.
Par contre, je vais le suivre, hein. Je vais le suivre. Ouais. Je vais envoyer des textos avant le match.
Aux deux équipes.
Ouais, aux deux équipes, ouais. Ouais. On a un ancien Goumoisin qui est parti quand même à Grenoble, c'est Pierre Sagot, hein.
Oui, tout à fait. Exact.
Il est content d'être là-bas, hein.
Et puis, en plus, j'imagine que tu lui as donné de bonnes adresses.
Ouais, mais il n'a pas besoin de moi, Pierre.
Non, la question que je voulais poser, tout simplement, c'est quand est-ce qu'il y a la prochaine représentation et de quoi va parler ta prochaine pièce?
Écoute, alors j'ai fait la dernière au mois de juillet, début juillet. C'était une pièce qui me paraissait sérieuse. Toi, j'ai joué un Fédot. J'ai joué le rôle de Hortense. J'avais le rôle d'un dentiste. Alors, ça semblait marrant, mais j'ai pris moins de plaisir parce que j'ai pas trouvé que c'était hyper, hyper marrant. Donc là, j'ai vraiment envie de me tourner que sur de la comédie. Et j'avais joué un peu auparavant dans le BD de con. Donc là, ça reprend tout doucement, si tu veux. Là, fin septembre, on reprend les cours avec la BD comédie. J'essaye d'aller voir un peu ailleurs d'autres horizons parce que j'ai envie d'avancer, si tu veux. C'est compliqué pour moi, je vais pas assez vite. Si tu veux, au rugby, on est... Puis moi, je suis toujours exigeant, avec moi et avec les autres et avec tout le monde. Au rugby, tu t'entraînes 3 fois par semaine et toujours tous les dimanches. Le problème du théâtre, c'est que tu joues pas tous les dimanches.
Oui.
Et pour moi, c'est une complexité, ça, tu vois.
Et qu'il faut être en forme au bon moment.
Ouais, il faut être en forme au bon moment. Après, c'est compliqué. Hein. Là, je te dis, j'ai appris un texte. Putain, des fois, c'est galère. C'est galère. Oui. Et pour moi, je révise tous les jours, toi, le matin, le midi, le soir. On travaille dans la voiture, aux toilettes, au restaurant. La nuit, je me lève. Bon. Mais on joue pas assez souvent. Donc, je vais essayer d'avancer là-dessus. Je vais essayer de voir si on peut. Je vais essayer d'imaginer autre chose pour avancer un peu plus vite. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant.
Parfait.
Moi, je pense au prochain épisode.
Voilà. J'ai des idées. Voilà, on va dire que j'ai des idées.
J'ai une dernière question à te poser, Jérôme. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
La santé.
Oui.
La santé. Déjà, si j'ai la santé, j'avancerai tout seul. Voilà.
C'est clair.
Voilà, après on peut se souhaiter plein de choses. Quand tu vois, je vais pas vous faire le cinéma, t'as vu ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Mais quand même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'est pas malheureux par rapport à beaucoup d'autres. Et si j'ai la santé, je m'arrangerai avec le reste.
Parfait, Jérôme. Ben, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'est toujours un plaisir et un moment béni qu'on partage ensemble parce que ça aussi, c'est du partage. Hein, cette émission-là, c'est comme dans le sport, c'est comme dans le théâtre. On partage des choses, on partage des moments, on partage des conversations et que c'est ça qui nous fait avancer dans notre construction d'homme tout court. Voilà. On t'embrasse bien fort, Jérôme. On te dit à très bientôt.
Bon, merci à tout le monde. La bise.
Allez, à tout bientôt.
Merci Jérôme, à bientôt.
Salut Tom.
Écoutez Attitude en FM sur 98.3 et 90.7 et sur internet www.attitudefm.com.